Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle saison des temps électriques. Pour cette reprise, c'est avec une actualité brûlante que nous débutons ces émissions. Le 4 septembre dernier, le ministère des Armées inaugurait le nouveau supercalculateur de défense, annonçant que la France se dotait ainsi de la plus importante capacité de calcul classifiée dédiée à l'intelligence artificielle en Europe. Quelques jours plus tard, peu de temps après la violation de l'espace aérien polonais par des drones russes, la présidente de la Commission européenne indiquait que l'Europe devait mettre en place un mur de drones à sa frontière est. Au cœur de tout cela, un enjeu, celui de l'usage de l'intelligence artificielle dans les conflits armés. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. En studio, Pierre Memelde, bonjour.
Bonjour.
Vous avez de nombreuses casquettes, celle qui nous éclairera dans notre discussion. Vous êtes chercheur pour le projet européen Falcon sur l'anticorruption et également vous êtes doctorant en IA et analyse de l'information. À distance, le général Fabrice Jaouen, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, votre carrière professionnelle est très riche, ponctuée de nombreux travaux en lien avec l'IA. Vous êtes expert de l'IA pour le ministère des Armées. Vous avez fait une thèse professionnelle sur le sujet. Un grand merci à tous deux d'avoir accepté cette invitation pour nous livrer votre analyse, tant d'opérationnel que de chercheur, sur des évolutions, évolution d'une guerre désormais aux mains de l'IA.
Objectif Kaili en visuel.
À toute heure du jour et de la nuit, des drones survolent le putain de trou paumé contre qui on est en guerre.
La cible est identifiée, vous avez le feu vert.
3, 2, 1...
Dans le mille.
La guerre est devenue un jeu vidéo en vue subjective.
Salut papa.
Vous êtes là parce que vous aimez jouer aux jeux vidéo.
Allumez-les, on va fumer les fumiers.
Ouais. Regardez, vous. 200 sorties et 6 missions avant d'arriver là.
C'est si dur que ça. Tu continues quand même à protéger les gens, non?
Quand vous voulez.
Missile lancé.
Putain, c'est quoi ça?
On annule?
Négatif.
Cette bande-annonce du film Good Kill plante le décor. La nouvelle image de la guerre, ça serait donc ça. Une guerre par l'intermédiaire de la technique, de drone en l'occurrence. Une guerre dans laquelle l'humain serait relégué à un rôle de superviseur, et encore. En tout cas, l'image n'est pas que cinématographique, elle est bien réelle, en atteste l'actualité internationale de ces derniers mois. Le recours aux technologies dans le cadre des conflits armés n'est pourtant pas récent. On se souvient, par exemple, de l'évolution marquée par la Première puis la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle les machines à crypter de l'armée d'Hitler faisaient face au Colossus Mark, considéré aujourd'hui comme un ancêtre de l'ordinateur, mis au point par les armées alliées. L'évolution rapide des technologies militaires s'intensifie pourtant avec une autre ampleur depuis quelques années. La question du recours à l'intelligence artificielle y a pris le devant de la scène, devenant une préoccupation de nombreux États. Ainsi, depuis 2024, le ministère des Armées en France fait de l'intelligence artificielle une priorité. Dans cet environnement, l'IA fait pourtant référence à des usages très différents. Parmi eux se pose avec une particulière intensité la question du recours aux drones et spécifiquement celle de l'automatisation des armes létales. Au Proche-Orient, comme en Ukraine, ces armes semblent en train de redéfinir les règles de la guerre moderne. Car d'évidence, ces outils modifient la façon de concevoir mais aussi de percevoir la guerre. Alors dans quelle mesure peuvent-ils être considérés comme un progrès ou faut-il au contraire en redouter les effets? Comment concilier ces nouvelles innovations militaires avec les principes fondamentaux du droit de la guerre? On en parle dans un instant avec nos invités.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au paquin dansé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
Quand un soldat s'en va en guerre, désormais, il a une chose en plus peut-être, il a l'IA. Alors, à notre tour de planter le décor pour débuter. L'IA est utilisée et intégrée dans tous les systèmes de force contemporains, du moins dans les armées modernes. Plusieurs cas d'usage vont guider nos échanges dans cette émission. En premier lieu, peut-être, l'utilisation d'un point de vue logistique. Général Jaouen, est-ce que d'un point de vue logistique, l'IA est une force pour nos armées? Qu'est-ce que ça permet d'un point de vue logistique?
Dans la logistique est d'abord un sujet lié à l'optimisation des flux, l'optimisation des stocks. Et en soi, ce n'est pas un sujet spécifiquement militaire. Si on prend aujourd'hui les grands groupes de logistique civile, ils utilisent tous massivement de l'intelligence artificielle pour optimiser leurs stocks, pour anticiper l'évolution des stocks en fonction de la saisonnalité, en fonction de différents événements, et même en aéronautique, en matière de maintenance prédictive. On va utiliser également de l'intelligence artificielle, d'autres modes, d'autres types d'intelligence artificielle pour optimiser des itinéraires. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et qui a vocation naturellement à imprégner la logistique militaire. Pourquoi ? Parce que dans la logistique militaire, plus les stocks sont optimisés, moins vous avez besoin de volume et plus votre empreinte logistique est faible et plus il est facile de soutenir la force. Donc, cette capillarité entre le secteur civil et le secteur militaire va de soi. Le problème qui peut se poser et qui est peut-être spécifique au secteur militaire, le fait de guerre, le combat, il y a beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup d'inattendus, et ça, c'est difficile à prévoir. Donc là, peut-être touchons-nous une limite de l'intelligence artificielle, touchons-nous une limite des capacités de modélisation de la logistique dans le cadre d'un conflit armé.
Est-ce que Pierre Mamel voulait réagir à ça ?
Sur la logistique, je n'ai pas d'avis particulier à donner.
Bon, effectivement, on est face, en outre, par rapport à ce que vous dites, à une multiplication de capteurs. On en a parlé dans d'autres émissions, une multiplication de points de vue satellitaires, des radars, les drones, on en parlera. Donc cette masse d'informations, après, une fois qu'elle est collectée, il faut la traiter. Donc l'enjeu, la priorité, sur ce sujet militaire, mais comme ailleurs, c'est plus que la collecte, c'est finalement la capacité d'analyse. On lit de plus en plus l'usage de l'IA à la question donc, de son utilisation, notamment au service du renseignement. Alors à ce sujet, Pierre Mémel, sur cette question d'analyse, de quel outil on parle, complément et que permettent-ils?
Je vais un peu casser l'ambiance parce qu'en fait aujourd'hui il n'y a pas d'intelligence artificielle permettant de faire de l'analyse.
Ouais.
Si on considère l'analyse comme étant la production d'un savoir particulier à partir d'un ensemble d'informations. Savoir particulier qui est destiné aux décideurs, pour qu'eux puissent prendre des décisions, comme leur nom l'indique, quant à une action à mener, l'évaluation d'une situation. Aujourd'hui, ce qu'il y a en matière d'intelligence artificielle, d'algorithme en général, parce que l'intelligence artificielle, ça recouvre quand même énormément d'applications et de technologies sous-jacentes, c'est vous avez tout ce qui permet de classer de l'information, ça existe en fait depuis des dizaines d'années, de mettre des mots-clés, de mettre des tags et de faire des résumés, même les résumés automatiques, en fait, c'est très ancien comme technologie. Et tout ce qui est exploitation, par exemple, de l'imagerie satellitaire, ça c'est une solution qui est déployée dans les armées, c'est connu, vous regarderez le site de Safran AI, ils sont experts français sur le sujet. Et donc ça on sait faire, ça c'est fait. Si on considère que l'intelligence artificielle c'est la production d'un savoir, tout le monde pense aujourd'hui au LLM, les modèles de langage importants, larges. Et là on rentre dans un problème qui est on n'a pas confiance dans ces modèles. Parce qu'ils sont tellement aléatoires, en fait, leur fonctionnement naturel et l'aléa Donc on ne peut pas leur proposer de créer une connaissance parce qu'ils ont des biais issus des données d'entraînement. Ils ont ce qu'on appelle des hallucinations qui, en fait, ils inventent des choses parce qu'il n'y a pas la réponse dans les données d'entraînement. Donc on a face à une problématique, il n'y a pas de fiabilité de cette information produite par les LLM. Or ça, c'est les commandants militaires, les commandants du ministère des Armées considèrent qu'un analyste humain est aujourd'hui, malgré tous ses défauts, parce qu'ils ont aussi des biais, voire des hallucinations, plus fiable qu'un LLM. Or, l'analyse, c'est un choix moral, éthique, de transparence, est confié aux analystes humains. C'est pas confié à une machine. L'exploitation de l'information, la représentation de l'information, ça c'est confiable à une machine. L'analyse, dire à un décideur, voilà, mon général, amiral, monsieur le président, peu importe, vous devez faire ça, voilà les trois options d'action à mener, ça c'est les humains. Et pour l'instant, c'est un choix qui est fait de dire, on laisse ça aux humains. Après, et vous l'avez dit avec l'inauguration du supercalculateur du ministère des Armées, on a enfin un cadre, apparemment, de ce qu'on peut lire dans la presse, d'expérimentation, qui va permettre de vraiment essayer sur de la donnée dite classifiée, de mener des expérimentations sur est-ce que ça va donner un résultat un tant soit peu utile. Et en fait, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On en est au balbutiement des essais sur ce sujet-là. En tout cas, de ce que j'en sais après.
Alors, puisque vous abordez tout de suite cette actualité que j'évoquais moi-même dans les mots introductifs, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots ce dont il s'agit sur ce supercalculateur IA qui a été annoncé et du moins, est-ce que on y voit ici, dans cet outil, et cette annonce, un défi aussi de souveraineté. Parce que la France annonce se doter de cet outil. On voit bien qu'il y a une espèce de compétitivité, une échelle internationale. Donc, comment on concilie cet enjeu de faisabilité, cette compétitivité? Là, il y a une discussion aussi.
Et c'est aussi une nécessité de souveraineté, parce que personne n'avait ce type de calculateur en Europe, et donc c'est les Français les premiers qui font quelque chose là-dessus. Mais c'est aussi une nécessité de sécurité, parce que par définition, les données classifiées ne peuvent pas être traitées sur un ordinateur lambda connecté à Internet. Donc en fait, toute l'infrastructure qui a été créée dans ce super calculateur est faite pour traiter les données classifiées. Mais en fait, on n'en sait pas plus, parce que lui-même, le projet est classifié. Mais en fait, on vit ça à n'importe quel niveau, que ce soit des données classifiées ou des données non classifiées. Je travaille avec l'Université de Strasbourg, ça a été dit, sur du traitement de l'information dans d'autres cas, la lutte anticorruption par exemple. Et le problème est le même, c'est qu'en fait, si on n'a pas un cadre d'expérimentation des résultats, c'est-à-dire comparer ce que fait un humain à ce que fait une intelligence artificielle, sur les mêmes données, on ne sait pas si c'est mieux, moins efficace, on ne sait pas. Et ça, ce n'est pas encore mené.
Alors, Général Jaouen, pour prolonger un peu cette discussion, réagir, est-ce que vous diriez, dans ces exemples qu'on a pris, qu'on est dans une adaptation un peu tactique inévitable? On parle de souveraineté, on parle de compétitivité, mais par rapport à ces évolutions?
Je dirais qu'on va beaucoup plus loin que dans l'adaptation tactique. L'adaptation tactique va concerner des systèmes d'armes, des modes opératoires. Et ça, les armées font ça n'ont jamais cessé ce mouvement d'adaptation face à des menaces. Et l'intelligence artificielle est entrée progressivement dans nos systèmes d'armes, a progressivement été utilisée toujours un peu plus, et il y a eu cette adaptation permanente. Donc, je dirais que nous sommes dans une forme de continuum. Ce supercalculateur est plutôt l'expression politique d'une volonté de changement de modèle, ou plutôt nous prenons acte du poids que devrait avoir, et je dis bien, j'utilise volontairement le conditionnel, l'intelligence artificielle dans les sujets militaires dans les prochaines années, prochaines décennies. Et il est important, quand on a un pays qui est une puissance mondiale comme la France, de se doter des outils qui nous permettent de ne pas prendre le risque d'être déclassé par négligence. Et qui nous donne cette capacité de calcul dont on a besoin. Si nous regardons bien tous les sujets sur lesquels nous avons besoin de beaucoup de puissance de calcul, vous prenez par exemple le commissariat à l'énergie atomique. Aujourd'hui, c'est un des centres d'excellence du calcul en France. Pourquoi? Parce qu'on utilise la simulation, on utilise l'intelligence artificielle sur le sujet nucléaire. L'aéronautique a énormément besoin de recours à ses capacités de calcul, à des algorithmes extrêmement complexes pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir créer des schémas opérationnels, inventer des schémas opérationnels et technologiques qui soient pertinents dans ce 21e siècle. Nous prenons la marine nationale avec toute la cartographie qui est en cours des océans. Tout cela nécessite des puissances de calcul énormes. Je dirais que nous actons ce tournant technologique des armées françaises vers la capacité à traiter, à assimiler et à analyser et à évaluer et à tirer toutes les conséquences et toutes les conclusions opérationnelles et stratégiques des masses de données qu'aujourd'hui on peut récolter. Et donc, le supercalculateur doit être vu plutôt comme une projection vers l'avenir et non pas seulement comme quelque chose de tactique qui serait donc relativement immédiat ou proche dans le temps. Nous allons beaucoup plus loin en matière de projection de nos capacités technologiques et de la création de compétences et de savoir-faire.
Oui, donc en vous écoutant, en comprenant bien cette idée de projection et non pas d'instantanéité, on est vraiment dans un changement assez fondamental dans la façon dont la force militaire est produite et utilisée, dont on va la mobiliser pour l'organisation d'un conflit. Et effectivement.
Exactement. Nous sommes dans un changement, vous avez raison. Nous sommes dans un changement, mais c'est un changement qui est tellement important que nous ne devons pas attendre de transformation brutale et rapide de ce côté-là. C'est plus un mouvement de fond que nous devons d'accompagner et non pas seulement de suivre. Donc ça va nous entraîner sur plusieurs décennies. Et c'est à cette échelle de temps, sur cette temporalité que nous devons raisonner.
Alors, dans une temporalité qui est beaucoup plus immédiate, mais qui va à coup sûr se prolonger dans les décennies que vous évoquez, un des sujets actuels de l'IA au sein des conflits armés, évidemment, c'est la question du recours aux drones que j'évoquais dans les mots d'introduction et des drones de plus en plus autonomes. Là encore, les fonctionnalités de ces engins sont multiples, mais parmi elles, on a des systèmes d'armes qui deviennent capables d'identifier une cible, d'ouvrir le feu presque sans intervention d'un opérateur humain. Alors au début, on était sur des drones de conception plus artisanale. On est aujourd'hui sur une industrialisation de ces drones. Concrètement, de quelles armes on parle? Qu'est-ce qu'on peut distinguer dans les finalités, dans l'utilisation de cette notion de drone? Parce qu'on lit, on entend beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très précises. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire le tri là-dedans?
Sur ces sujets de drones, la France est en train également de changer de modèle. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 15-20 ans à peu près, le drone était uniquement un outil d'observation. Et d'observation, de capture d'informations de type électronique, de type visuel par les images, mais de capture d'informations qui ensuite étaient analysées. Évidemment, dans lequel l'intelligence artificielle avait toute sa place pour analyser des images, analyser des signaux électriques, et ensuite en déduire les conclusions, et comme disait Pierre Memel, de faire une analyse, confier ça à des analystes pour qu'ils puissent évaluer ce qu'était la réalité de la menace qu'on avait envisagée. Nous avons changé de modèle il y a un peu plus d'une dizaine d'années, pour nous rapprocher de ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est que le drone devient un système d'armes à part entière et va délivrer des effets, va délivrer des armes et des feux, ou du brouillage. Du brouillage, des feux, il va délivrer des effets. Et à partir de ce moment-là, on a abouti à autre chose. C'est cette automatisation du tir, automatisation des effets, c'est à quel endroit se situe l'être humain, le soldat, dans la boucle de décision, qu'est-ce qui peut être délégué à une machine en fonction des circonstances. Ce sont des questions assez importantes, assez compliquées en fonction des risques que l'on veut prendre, que l'on est prêt à prendre. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Ce qui va compter, c'est les faits. Si l'effet nécessite d'utiliser de l'intelligence artificielle pour identifier la cible, on va utiliser de l'intelligence artificielle. Mais si l'effet ne nécessite pas d'utiliser de l'intelligence artificielle et que c'est peut-être programmé à l'avance, et que c'est peut-être simplement automatisé et que c'est plus efficace avec moins de risques d'erreur et un coût plus faible, évidemment, on va se contenter de l'automatisation par une programmation au préalable de la cible. Donc, vraiment, tout va être dans l'usage que l'on veut en avoir, et dans le risque que l'on est prêt à prendre. Alors, mais ça, c'est un sujet
je rebondis
qui peut être assez complexe.
Directement sur ce que vous dites, vous citez des mots quand même qui sont lourds de sens et sur lesquels on peut rebondir. Cette question de calcul de risque, d'efficacité, de risque d'erreur. L'Institut français des relations internationales, l'IFRI, chiffrait récemment les pertes dues aux frappes de drones en Ukraine, donc en 2025, à 60 ou 70%, toutes catégories confondues. Donc on est quand même sur un taux qui montre que l'erreur est bon, quantifiable, je ne sais pas, mais du moins que voilà, le risque d'erreur est possible. Alors je ne sais pas si ces chiffres appellent une réaction de votre part. Est-ce que ça rejoint ce que vous exprimez?
Ce sont des chiffres que je ne connaissais pas. Je ne suis pas spécialement le conflit ukrainien au-delà de ce qui est dans la presse quotidienne. Donc je ne suis pas entré dans le détail de ces données, puisque je suis sur d'autres sujets en ce moment. En revanche, oui, le drone se prête particulièrement bien à ça. C'est-à-dire que le drone va être équipé d'une caméra. La caméra sera dotée d'une application logicielle basée sur de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle aura été entraînée au préalable à terre à reconnaître par ce qu'on appelle la vision par ordinateur certains types de cibles. Le logiciel, une fois entraîné, l'IA, une fois entraîné, est embarqué à l'intérieur du drone. Et quand le drone va repérer un objet similaire ou une silhouette similaire, les calculs vont permettre de déduire qu'il s'agit bien de la cible, d'une cible conforme aux cibles sur lesquelles le système de drone a été entraîné, l'intelligence artificielle a été entraînée, pardon, et à partir de ce moment-là, cela pourra déclencher l'ouverture du feu. Ou bien, ça pourra soit de façon automatique déclencher l'ouverture du feu, parce qu'on estime qu'il y a peu de risque d'erreur, soit ça permet au drone d'envoyer un signal à terre et de dire là on a repéré une cible, est-ce que vous autorisez le tir ou pas. On va pouvoir faire la même chose pour le traitement du signal électrique. On va donc notamment lorsqu'on a un certain type de signaux de postes radio qui sont repérés, c'est comment l'intelligence artificielle les classifie, et s'ils sont classifiés comme ennemis à ce moment-là, de la même façon que pour une image, on peut demander automatiser le tir et la destruction de cette cible par le drone, ou le drone peut envoyer un message à terre pour demander la conduite à tenir, en quelque sorte, à l'opérateur qui, lui, est resté à terre.
Alors, cette capacité et cette précision que vous évoquez, on peut en parler aussi parce qu'effectivement, il y a une solution qui est couplée avec ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, dont on a aussi parlé dans le cadre d'émissions précédentes, pour optimiser l'efficacité de ces outils. Pierre Mémel, est-ce que vous voulez réagir sur la question de l'OSINT ?
L'OSINT est un merveilleux outil qui, une fois de plus, a été très popularisé par les conflits précédents, qui est pourtant une pratique très ancienne, puisqu'il s'agit de se documenter à tout ce qui est accessible à tout un chacun, donc ce n'est pas particulier à la technologie. Mais c'est vrai que la multiplication des téléphones portables dans les poches de tout le monde rend aujourd'hui la possibilité d'avoir des images, des vidéos, des sons, des localisations GPS qui n'existaient pas avant. Donc ça, c'est une grande opportunité. Il y a des gens qui se spécialisent dans l'exploitation de l'OSINT tous azimuts. On reconnaît les dates, on reconnaît les heures du jour, la localisation en fonction des ombres. Enfin, c'est exceptionnel en termes de précision et de pratique, parce que c'est très détaillé. Mais en même temps, ça crée tout un problème de multiplication de l'information, où justement les capacités de traitement et d'analyse, et surtout d'analyse, n'ont pas suivi. En fait, aujourd'hui, on accumule des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de documents en OSINT. On les exploite jamais, on les lit jamais. On peut plus, c'est impossible. Avant, on pouvait lire les journaux sur un sujet, on y arrivait. Maintenant, vous avez des centaines et des centaines de rapports, de tweets, de tout ce que vous voulez, de réseaux sociaux, sur n'importe quel sujet. Alors, il y a des sujets qui apparaissent pas encore aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une déformation médiatique dans tout ça. Mais typiquement sur l'Ukraine ou le conflit à Gaza, que je connais pas du tout. Mais l'Ukraine, c'est vous avez une explosion de la quantité d'informations qui rend en fait l'OSINT, à mon point de vue, après je suis un peu critique du sujet, beaucoup moins exploitable que n'était information ouverte avant. Et avant, on avait une photo satellite d'un endroit, on pouvait l'exploiter. Mmh. Maintenant, on a des dizaines de vues différentes du même endroit. En fait, ça, c'est l'OSINT, pour moi, crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, même si bon, régulièrement on arrive à piocher quelque chose d'exceptionnel. On a vu un camion à tel endroit, on a vu une personne à tel endroit, on a vu un satellite, enfin peu importe. La gamme est infinie en matière d'usine, mais on ne sait pas les exploiter, on ne sait pas les analyser. Donc pour moi, si on n'a pas recours à l'intelligence artificielle, une fois plus aux algorithmes de traitement de l'information et d'analyse, l'usine va continuer à exploser, et encore plus maintenant, parce que les intelligences artificielles type ChatGPT produisent une nouvelle information qui est synthétique, donc qui n'existe pas, enfin même si elle est vraie. Et donc on va encore multiplier la quantité d'informations à traiter. Donc le problème ne va faire que s'aggraver.
Ce point de vue est intéressant du coup, parce qu'effectivement, on a plutôt tendance à le relier en tant qu'optimisation de l'efficacité de l'outil. Et votre position montre qu'effectivement, ça peut aussi être inverse. La pluralité d'informations en fait perdre la précision. Alors, puisqu'on est dans les vulnérabilités, c'est presque au-delà du sujet de l'IA, mais l'augmentation de cette dépendance aux outils de communication numérique, souvent, ça va de pair avec forcément une vulnérabilité technique, des supports, des systèmes. Les conflits contemporains démontrent aussi qu'il y a un certain nombre de stratégies qui s'organisent pour venir brouiller le signal, venir usurper le signal, intercepter les messages. Donc le numérique, évidemment, n'est pas sans failles, et ces failles, elles sont utilisées d'un côté comme de l'autre. Est-ce que les armées françaises, évidemment, puisque c'est le cœur de notre propos ici, mais anticipent ces failles et se dotent d'outils de plus en plus robustes, justement, pour éviter ça, Général Jaouen ? Est-ce qu'on peut redouter finalement que ces outils fragilisent les opérations, ou est-ce qu'il y a une anticipation à cet égard ?
En fait, ce que vous citez là, c'est le combat, la lutte millénaire de l'épée contre le bouclier.
Et oui.
C'est-à-dire que oui, la menace s'accroît, nos adversaires potentiels vont utiliser ces outils, vont tenter d'entrer dans nos systèmes d'information, vont utiliser l'intelligence artificielle pour fragiliser nos systèmes, pour instiller le doute dans nos connaissances et notre savoir sur un conflit. En revanche, dire que les armées françaises peut-être seraient en retard serait sur une contre-vérité absolue. On peut constater aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe ailleurs, qu'on peut être assez admiratif de notre pays, finalement. Parce qu'il a mis en place depuis longtemps des outils au sein des services de renseignement, mais aussi au sein du ministère des Armées lui-même. Il a mis en place les outils, les structures, le personnel qui nous permet de, à la fois de résister avec succès à ces nouvelles menaces, de les anticiper et également de porter nous-mêmes le fer dans le camp adverse. Parce que quand c'est ça, il ne suffit pas de se défendre, il faut pouvoir également attaquer et mettre et obliger l'autre, celui qui est en face de nous, notre adversaire potentiel, à se mettre sur les défensives et à y consacrer des ressources. Plus il consacrera de ressources à la défensive, moins il pourra en consacrer à la partie offensive. Et donc, il faut de ce côté-là prendre l'initiative. J'avoue, je concède que ben, finalement, on a un système qui fonctionne bien, on a des armées qui fonctionnent bien, et on a un ministère qui a su s'organiser depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. Mais comme dans tous ces changements profonds, ce sont des mutations qui prennent du temps, puisqu'il faut construire les ressources humaines, il faut construire les compétences, il faut construire les bases technologiques, les outils, il faut construire les processus, les procédés, les concepts, les doctrines, mettre à jour les dispositions légales qui permettent d'utiliser ces outils. Donc il y a tout un travail qui est fait patiemment et avec détermination et résolution par le ministère des Armées depuis au moins 10-15 ans. Et ça, effectivement, mais pour des raisons très concrètes, on en parle très peu. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ça fait partie de ces actions et de ces méthodes qui ont besoin de discrétion pour être efficaces. Il se renseigner un peu et on voit bien que cette montée en puissance est tout à fait réelle. Et place aujourd'hui, pour l'avoir vécu, en matière de coopération internationale, Et sur le plan européen, donc on va prendre des pays de taille équivalente et de capacité militaire équivalente, place la France dans les pays de tête, clairement, du camp occidental.
Mmh. Et c'est parce que cet enjeu, effectivement, est important quand on voit sur... à l'étranger, qu'à l'inverse, on a une facilité parfois à voir que certains brouilleurs qui sont disponibles dans le commerce vont être utilisés par des acteurs non étatiques pour perturber les communications et la navigation. On a là une immixtion du privé dans la tactique et dans le process qui interroge quand même sur le... Bon, donc cette anticipation, en tout cas, à vous entendre sur la question française et... est intéressant. Vous voulez réagir et continuer le...
Oui, pour dire oui, on peut trouver des acteurs vont prendre des outils du privé pour pouvoir agir contre nous, mais ça tombe bien, pour aller plus vite dans notre capacité de réaction, nous achetons également dans le secteur privé des outils qui nous permettent de contrer ces nouvelles menaces.
Très bien.
Donc, nous sommes vraiment dans cette compétition permanente. D'ailleurs, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Thierry Burka utilisait volontiers le terme de compétiteur. Nous sommes bien dans cette compétition, et comme dans toute compétition, vous vous adaptez en permanence, vous luttez en permanence, et vous cherchez sans arrêt à contrer la nouvelle menace, voire à l'anticiper, et apporter une nouvelle menace à votre compétiteur. Et effectivement, même si nous sommes peu disert en France sur ce sujet-là, nous n'avons pas peur d'appliquer, d'acheter directement dans le commerce, sur étagère, des outils qui pourront nous être utiles et nous permettront d'être plus réactifs dans la réponse aux menaces.
Pierre Mémel, je sens que vous voulez réagir dessus.
Moi, je suis juste dans le champ de l'information, même si j'ai un peu tiqué sur ce que vous avez dit sur le brouillage. Le brouillage n'est pas un sport de masse, comme on dit. Il n'y a quand même pas grand monde dans le secteur privé qui sait faire du brouillage.
Non, mais techniquement, voilà, c'est pas un sport de masse, mais c'est techniquement.
C'est pas encore démocratisé.
Non. Heureusement.
Ça reste mais dans c'est... les mains des États.
C'est une vulnérabilité à soulever.
Oui, tout à fait. C'est comme ça. Sur l'information, à l'inverse, n'importe qui aujourd'hui peut faire de la désinformation. C'est-à-dire, c'est à la portée de tout le monde. Il y a eu des cas célèbres, dans le domaine économique, d'une attaque informationnelle contre le groupe Vinci en 2016. Donc, on était largement avant l'explosion des IA d'aujourd'hui. Ou un simple communiqué de presse qui a pris, à tout casser, une demi-heure à fabriquer, a fait plonger le cours de bourse de la société de plusieurs milliards. Et c'était une information complètement inventée, mais il a fallu plusieurs heures pour la vérifier. Quand vous avez une information que vous devez vérifier, vous la vérifiez, vous avez plusieurs heures, vous réagissez. Quand, par exemple, le régime malien a accusé la France de massacre, la réaction a été instantanée, la réponse est non, les images ont été trafiquées, ok, très bien. Quand vous avez des dizaines, des centaines, des milliers, une fois plus des dizaines de milliers d'informations au quotidien qui sont diffusées dans tous les sens avec une multiplication, une répétition à l'infini, grâce aux réseaux sociaux, entre guillemets, là vous n'avez plus le temps de réagir. Vous pouvez toujours réagir sur des points particuliers quand ça vous concerne différemment, mais en fait, la désinformation, la cible de la désinformation, c'est la population, c'est pas les décideurs. Or la population, elle n'a pas les moyens et elle n'a pas la formation en termes d'analyse, d'esprit critique ou de savoir-faire technique, de tout vérifier tout le temps. Donc c'est pour ça que la désinformation, en fait la cible d'une désinformation, c'est jamais les décideurs, on s'en fiche complètement. Sauf quand on vous donne une mauvaise image d'eux, mais ça c'est encore une autre histoire. Et en parallèle de ça, cette incapacité de vérifier en permanence toutes les informations, vous avez le fait, si je puis me permettre, mais ça c'est mon point de vue strictement personnel, d'une perte de crédibilité des institutions en général. Ce qui fait que les gens croient encore plus à des informations. Et ils n'ont pas les moyens de la vérifier. Et même quand les autorités, les décideurs réagissent, le gouvernement réagit à une désinformation, même cette réaction n'est pas crue. Donc là, en fait, l'effet de levier explose littéralement, en ce moment, avec la désinformation. Et la création d'outils d'IA que tout un chacun a sur son téléphone portable pour pouvoir modifier des images, des sons, des vidéos à l'infini, c'est très pratique, sauf que ça permet d'encore multiplier la désinformation. Entre autres, ça multiplie aussi l'information, mais ça démultiplie la désinformation.
Bon, alors, on va laisser de côté un temps cette question de la vulnérabilité, mais ces questions sont centrales, vous avez raison de le souligner. Un autre enjeu de la guerre, de cette guerre, c'est aussi son coût. On a évoqué plusieurs points, mais on peut invoquer celui-là. Parce qu'il semble que dans ce mouvement, il y a plusieurs questions, observations qui se dégagent, et que notamment le coût de plus en plus faible de certains outils, de ces drones notamment, sont une question qui change la conséquence sur notamment la durée de la guerre. On voit, je lisais qu'on voyait apparaître parfois sur le front, vous me direz, Général Jaouen, si ce que j'ai lu est exact, mais des unités mobiles munies d'imprimantes 3D, plutôt que finalement des blindés très, très coûteux, parce qu'on redouterait les pertes de ces blindés coûteux. Alors, est-ce que cette guerre d'un coût différent a pour conséquence de favoriser la possibilité, par exemple, d'une guerre plus longue? Est-ce qu'on est dans une conception très différente ici?
On n'est pas dans une conception très différente. On revient à une conception originelle de la guerre. C'est-à-dire que on a, en fait, depuis le milieu des années 90, on a cru que les guerres de haute intensité, longues et coûteuses en êtres humains et en matériel étaient relevées du passé. Et on a créé un modèle de guerre qui sont les opérations de rétablissement de la paix, les opérations de maintien de la paix, telles qu'on a pu le voir en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel ou notamment en Asie, en Afghanistan. Qui étaient des opérations qui étaient toutes lointaines, qui était extrêmement brutale et violente pour les hommes sur le terrain lorsqu'ils étaient engagés dans des combats. Nous avons eu beaucoup de morts dans ces pays, mais dans lesquels les dommages étaient finalement très faibles. Les consommations de matériel, de munitions, de pièces détachées étaient très faibles par rapport à ce qu'on appelle le conflit haute intensité pour lequel on se préparait jusque dans les années 90, jusqu'à la chute du pacte de Varsovie. Et en fait, avec l'Ukraine, on découvre que la guerre dure longtemps, que la guerre est extrêmement destructrice en êtres humains, en soldats et en matériel, et qu'il faut s'adapter. Et finalement, quand on regarde bien, quand on revient sur la guerre haute intensité telle qu'on l'a préparée au moment de la guerre froide, beaucoup de réparations se faisaient sur l'avant. Les unités avaient du matériel assez rustique, assez simple, et surtout, vous pouvez réparer beaucoup de choses très rapidement au plus près des combats pour remettre le véhicule le plus vite possible dans le combat. L'imprimante 3D est une réponse et le prolongement de cette vision d'une maintenance au plus près des combats pour ne pas avoir du matériel qui disparaît pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, loin en arrière du front, en attente de pièces détachées qui sont complexes à fabriquer ou qui sont fabriquées en plus petites séries. Donc finalement, l'imprimante 3D est une réponse actuelle à un problème ancien et une adaptation grâce aux technologies d'aujourd'hui. On fait des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant, c'est-à-dire fabriquer les pièces sur place, mais c'était le rêve de tout mécanicien dans les combats de l'époque de la guerre froide ou lorsqu'on était dans la guerre haute intensité. C'était comment je peux avoir au plus près des combats, des pièces détachées qui permettent de renvoyer le matériel au plus vite en engagement opérationnel.
Est-ce que Pierre Memel, vous voulez... je vous vois...
J'aime bien les vieux métiers, donc fut un temps, la réparation des armures s'était faite par les forgerons sur le champ de bataille. Et quand la soudure a été inventée, il y avait des soudeurs sur le champ de bataille qui réparaient les matériels. Donc l'imprimante 3D, c'est une nouvelle expression technologique, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour moi, ce n'est pas particulièrement nouveau, c'est normal. Et pareil, on voit maintenant apparaître des charges de motocyclettes, alors qu'avant c'était des charges de cavalerie. Bon, d'accord, l'outil change, mais la logique est exactement la même.
Alors néanmoins, pour penser ce droit de la guerre dont on parle depuis tout à l'heure, on doit mobiliser quand même plusieurs sources. On a parlé stratégie militaire, il y a le droit de la guerre en tant que tel, d'un point de vue des sources, et il y a également ce qu'on appelle l'éthique de la guerre, qui est une tradition à l'origine liée à la théologie. Fabrice Jaouen, ces enjeux éthiques, comment on va les positionner dans ces débats liés à l'IA au sein des conflits armés? Est-ce que déjà la question de l'éthique est présente? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle devrait l'être? Qu'est-ce que vous en pensez?
Elle est C'est un sujet dont on s'empare progressivement. C'est-à-dire que pendant longtemps, notamment lorsqu'on était sur le combat de haute intensité, c'était le droit de la guerre qui s'appliquait. Soit on est en état de paix, soit on est en état de guerre, la déclaration de guerre faite par le Parlement. En fait, bref, il y avait des règles, une codification très précise de ce qu'est la guerre, de ce qu'elle n'est pas. Les opérations de maintien de la paix, de rétablissement de la paix, qu'on a connues depuis 30 ans, ont créé des zones grises, où là, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue éthique, officiellement, ce n'était pas la guerre, mais le type d'opération qui s'est déroulée sur le terrain lorsqu'on était chef de section ou commandant d'unité, un chef de section commande une trentaine de personnes, un commandant d'unité de 150 à 200 personnes environ. Pour ces gens-là, qui étaient engagés au combat, qui avaient des morts, qui devaient détruire un adversaire, il était évident que on ne pouvait pas changer de... Comment dire ça ? En fait, pour ces gens-là, on était dans la guerre, mais d'un point de vue juridique, ils ne l'étaient pas. Mmh. Et donc, on avait inventé les règles d'engagement pour ça, qui permettaient d'agir. Mais d'un point de vue éthique, on s'est retrouvé dans des zones grises où le droit ne définissait pas tout. Et donc, dans le cas de la guerre, il y a toujours des moments où on s'interroge. Ce retour à la brutalité de la guerre, à l'immédiateté de l'action, à la multiplicité des cas de figure qui peuvent devenir des cas de conscience, il est important, effectivement, que les armées s'emparent de nouveau de ces sujets d'éthique. Je sais qu'on y travaille, hein, il y a des comités d'éthique au niveau des ministères des armées qui travaillent sur ce sujet-là. Mais effectivement, il est important de faire appel à des éthiciens, à des juristes, pour pouvoir avoir un véritable raisonnement, une véritable éthique qui soit un raisonnement élaboré et non pas simplement l'expression de nos a priori ou de nos jugements ou de nos opinions, pardon. Et ça, c'est un travail qui est en cours, mais comme dans toutes ces évolutions majeures que l'on connaît aujourd'hui, c'est un travail qui est en cours, mais qu'on ne pourra pas faire aboutir en quelques semaines ou quelques mois. Puisque non seulement il faut mener la réflexion, vérifier quel est le cadre juridique, dans quelles circonstances il s'applique, et dans quelles circonstances où va être le droit, où va être l'éthique, quelles sont les limites entre les deux, dans quelle mesure peut-on adapter le droit, dans quelle mesure cela relèvera-t-il uniquement d'une forme d'éthique personnelle, ou est-ce qu'il y aura une éthique collective. Ce sont des questions qu'on doit pas avoir peur de mettre sur la page publique, parce que les armées ne peuvent pas être déconnectées de la société dans laquelle elles évoluent. Et donc, il faut que ces règles juridiques, éthiques que l'on mettra en place correspondent aussi à la vision qu'a la société et à ce que la société peut accepter. Une armée qui se coupe de la société dont elle émane est une armée qui risque fort d'être désapprouvée et rejetée par la société si elle agit de son propre chef. Quand je dis agir de son propre chef, ce sont des règles qui ne correspondent pas aux règles sociales et aux règles d'acceptation sociale.
Mais justement, cette question des comités d'éthique ou de cette réflexion que vous évoquez, effectivement, sauf erreur de ma part, le délégué général pour l'armement, Emmanuel Chiva, l'a rappelé, a voulu certainement avoir ses propos rassurants en ce sens, en disant voilà, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des lignes rouges, on ne les franchit pas, le respect du droit international, la présence d'un contrôle humain suffisant et surtout la permanence de la responsabilité humaine, la responsabilité du commandement est effectivement le point de jonction. Et là, c'est ce qu'on disait Pierre Memel dans le début d'émission, la présence de l'humain dans la chaîne. Moi, il y a une actualité qui m'a fait réagir et sur laquelle j'aimerais bien vous faire réagir aussi, Pierre Memel. J'ai encore entendu il y a quelques jours cette question en Ukraine où l'armée a mis en place un système de classement par points qui permet aux pilotes de drones et aux unités qui abattent le plus de cibles d'être récompensés en armes et en matériel. Alors là, on est dans quelque chose qui est d'un autre ordre, quelque chose qui est de la gamification, c'est incroyablement assumé, mais pourtant, enfin là, on parle d'éthique. Quel est votre regard.
Je ne suis pas un spécialiste des questions éthiques.
Non, je sais.
Simplement.
C'est pas vous que j'ai fait réagir dessus, mais.
Une fois de plus, les Ukrainiens sont confrontés à une situation qui est exceptionnelle, qu'on ne croyait pas, et c'est une erreur d'analyse, devoir revoir en Europe. Donc ils n'ont pas le choix, ils font avec ce qu'ils ont et la manière dont ils perçoivent les choses, avec peut-être des opérateurs de drones qui, étant jeunes, ont plus joué aux jeux vidéo. J'accuse pas du tout les jeux vidéo, c'est un faux débat, ça. Simplement, on est dans une modernité qui fait que on travaille ainsi. Mais une fois de plus, ils ont pas le choix. La situation est telle que s'ils ne trouvent pas des moyens de motiver les troupes, ils n'y arriveront pas. Voilà, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'intervention.
Alors on va finir cet échange et on va l'ouvrir sur autre chose, sur une autre perspective, au service de la stratégie militaire. Général Jawen, vous travaillez aussi sur un autre point, qui est la notion de guerre cognitive. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu de quoi il s'agit ?
Pierre Mehmed avait commencé à aborder le sujet dans l'échange que nous avons aujourd'hui. La guerre cognitive est un domaine de recherche émergent en France. On s'intéresse aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences, à la façon dont un adversaire peut influencer nos croyances, nos opinions, mais pas de façon simplement expressive dans des médias d'influence, dans de la désinformation ou autre, mais en changeant notre façon de percevoir le monde. Et en ancrant ces perceptions, ces nouvelles perceptions dans la durée, en jouant sur nos sentiments, c'est nous amener à changer notre regard sur le monde, notre regard sur une guerre, notre relation au pays, à la nation, et ainsi à fracturer notamment une nation, fracturer les opinions, créer des camps antagonistes et nous fragiliser. On va retrouver dans cette approche de la guerre cognitive, plusieurs choses. Premièrement, on va retrouver le principe de Sun Tzu. Sun Tzu qui a, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire récemment, été rapidement, notamment, imprégné la pensée militaire et stratégique russe. Et notamment avec la capacité, l'importance de la ruse, de la tromperie, et du retournement des populations pour la victoire. Ce qui permet d'être dans une économie des moyens et des ressources. Quand on est en situation d'infériorité militaire et technologique, utiliser ces stratégies de guerre cognitive vont permettre d'affaiblir un pays avant même que les combats n'aient commencé, et on retrouve exactement la pensée de Sun Tzu de ce côté-là. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les techniques qui étaient utilisées déjà à l'époque de l'Union soviétique, c'était d'introduire la division dans une population, de la polariser, et en la polarisant, en l'empêcher de décider, l'empêcher de s'unir sur les sujets fondamentaux, et l'empêcher d'agir de concert pour s'engager dans une guerre. Et ça, vous le retrouvez notamment, ce sujet a été étudié par David Chavalarias du CNRS, donc de l'Institut des systèmes complexes, qui a démontré comment des comptes basés en Russie pouvaient massivement soutenir et influencer dans les réseaux sociaux des comptes qu'on pourrait qualifier soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche. Mais le même compte russe le même groupe de comptes russes allait pousser en avant, valoriser dans les algorithmes ces comptes diamétralement opposés en France pour amener ces deux opinions à s'affronter de plus en plus fortement. Et donc à créer par cette polarisation des opinions irréconciliables et définitives. Et ça va s'ajouter, mais c'est pas conçu isolément. Vous allez pouvoir utiliser d'un côté les réseaux sociaux. Si vous mettez en place une stratégie, vous allez, on veut dire, totalement assumée et étatique, vous allez coupler ça avec des actions diplomatiques, avec un discours politique, éventuellement avec des activités d'ordre culturel. Et donc pour progressivement faire glisser un camp d'un côté et le rendre totalement irréconciliable avec l'autre et en l'emmenant sur des opinions totalement divergentes qui ne pourront plus, où le compromis ne sera plus possible. Or, toute démocratie a besoin de compromis. Donc, à partir du moment où vous interdisez le compromis en démocratie, vous commencez à affaiblir un pays. Et ça fait partie des stratégies totalement assumées. Mais quand on va parler de guerre cognitive, ce ne seront pas seulement les réseaux sociaux, ce seront tout un ensemble de ce qu'on pourrait qualifier des lignes d'opération que l'on va faire converger dans le même objectif.
Et ben on voit effectivement que les perspectives offertes par la technologie, par la technique, quelle qu'elle soit, au service de cette réflexion sur la guerre et aussi de sa réalisation, on n'en est peut-être, comme vous le dites, qu'au début. Mais peut-être qu'on prolongera ensemble ces échanges dans quelques mois, dans quelques années, pour établir un bilan, voir où on en est. Pierre Memmeld, Général Jaouen, merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme.
Alors c'est avec cette balade engagée de Leonard Cohen qu'on s'approche de la fin de l'émission. Pour terminer, c'est avec un texte ancien mais bien connu que je voudrais vous faire réagir et que je vais ajouter aux échanges.
L'Iliade, scène 15, la prise de la ville. Alors les Grecs construisirent, avec l'aide d'Athéna, un cheval gigantesque en bois de sapin. Ils firent croire que c'était une offrande aux dieux pour leur retour. Mais ils cachèrent furtivement dans les flancs du colosse l'élite de leurs guerriers en armes. Or, non loin du rivage, en vue de Troie, il y avait une île du nom de Ténédos. C'est là que les Grecs firent voile et ils cachèrent leurs vaisseaux sur les plages désertes. Pendant ce temps, les Troyens les croyaient partis et portés par le vent vers Mycène. À Troie, la joie succéda à l'affliction. Les portes qui avaient été si longtemps fermées s'ouvrirent toutes grandes. Quelle joie de pouvoir errer librement à travers le camp grec, de voir l'emplacement des vaisseaux et le rivage abandonné. Les Troyens restaient stupéfaits à la vue du cheval, don funeste fait à la déesse Athéna, et admiraient sa taille prodigieuse. C'est alors qu'un homme leur conseilla de l'introduire dans la ville et de le placer dans la citadelle même. Était-ce trahison, ou déjà les destinées de Troie s'accomplissaient-elles? Nul ne pouvait le dire. À la nouvelle de ce projet, le prêtre Laocoon accourut, furieux, du haut de la citadelle. « Mes pauvres concitoyens !» s'écria-t-il alors qu'il était encore loin. « Quelle folie est la vôtre ! Croyez-vous que les ennemis sont réellement partis ? Pensez-vous qu'il est prudent d'accepter des Grecs imprésents ? Ou bien des hommes sont cachés dans ce bois, ou bien c'est une machine de guerre faite pour épier nos demeures et fondre d'en haut sur la ville. Ou encore, il y a là un piège que j'ignore. Défiez-vous de ce cheval troyen. » À ces mots, il lança un énorme javelot sur les flancs de la bête. Et si la volonté des dieux n'avait pas été contraire, les Troyens se seraient joints à lui pour saccager le repaire des Grecs, et Troie serait debout aujourd'hui encore. Mais les dieux envoyèrent un terrible présage. Comme Laocoon, prêtre de Poséidon, était sur le point d'immoler un taureau au pied des autels, voici qu'arrivèrent de la mer deux terribles serpents. Se jetant sur Laocoon et ses fils, ils les dévorèrent tous trois. Alors une grande frayeur saisit tous les cœurs. Le bruit courut que Laocoon avait été châtié pour avoir frappé de son javelot le bois sacré. Aussi, tous crièrent-ils qu'il fallait conduire le cheval dans la ville et implorer la protection de la déesse. On fit une brèche dans les remparts. Chacun se mit à l'œuvre. On glissa des roues sous les pieds du cheval, on passa des cordes autour de son cou. Et tandis que garçons et filles chantaient des hymnes sacrés, ils s'avançaient en glissant jusqu'au centre de la ville. Quatre fois, il s'arrêta au passage de la brèche, et quatre fois dans ses flancs retentit le bruit des armes. Mais, sans y prendre garde, les Troyens continuèrent. Ils placèrent le monstre fatal dans la citadelle consacrée, tandis que les temples étaient ornés de feuillages de fête. Cependant, la nuit s'élançait de l'océan. Bientôt les Troyens furent plongés dans un profond sommeil. Et déjà l'armée grecque, partie de Ténédos, voguait en bon ordre vers ses rivages familiers. À la vue d'une flamme sur le vaisseau royal, un Grec, qui s'était mêlé aux Troyens, ouvrit le cheval de bois et libéra ses compatriotes cachés à l'intérieur. Ils se précipitèrent dans la ville endormie, massacrèrent les sentinelles et, ouvrant les portes, accueillirent leurs compagnons. Les cris des guerriers et l'accent des clairons s'élevèrent à la fois et les Grecs portèrent partout dans la ville le fer et le feu. Ainsi tomba cette ville antique qui avait été pendant de longues années la reine de l'Asie. Et les cadavres de ses enfants jonchaient de toutes parts les rues et les maisons et le seuil même des temples.
Alors, on est évidemment sur une lecture ancienne, mais vous évoquiez, Général Jaouen, dans vos propos de conclusion tout à l'heure, des perspectives liées à la ruse, finalement, à la tromperie, dans ce qui revient dans ces technologies. Est-ce qu'on rejoint ici cette lecture ancienne, comment vous positionneriez le débat pour finir au regard de ce texte?
Eh bien, c'est très simple. À la guerre, seule la victoire est belle. La ruse, si la ruse et la tromperie peuvent permettre de remporter une victoire plus facilement, eh bien, il faut se précipiter et ne pas avoir peur d'utiliser la ruse et la tromperie. Ce qui compte, c'est la victoire.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Pierre Memelde, chercheur pour le projet européen Falcon sur l'anticorruption, également chercheur, doctorant en IA et analyse de l'information, et avec lui le général Fabrice Jaouen, également spécialiste pour le ministère des Armées sur les matières d'IA. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique les Temps électriques, une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Bardot Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À bientôt.